Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on va parler de développement personnel et de bien-être dans une première partie. Et dans une deuxième, on va parler de la... On va parler, une petite histoire donc des mouvements de psychiatrisés dans les années 70. dite par André Bitton de l'association CRPA, Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. Donc en France, principalement, histoire des mouvements de psychiatrie, c'est dans les années 70. Alors aujourd'hui, donc, on commence par un article, c'est de Télérama du 16 septembre 2023. Yoga, détox et complotisme, comment l'extrême droite vampirise notre aspiration au bien-être. Alors, il ne s'agit pas tout à fait de psychiatrie, mais de tout ce qui est autour de du développement personnel, du bien-être, ce qui consiste en quelque sorte à une mainmise de tout un arsenal de pratiques sur nos vies. Qui sont un peu aussi comme des injonctions à bien se sentir. Alors, yoga, détox et complotisme, comment l'extrême droite vampirise notre aspiration au bien-être. Le festival Les Foisonnantes est censé promouvoir la nature, la santé, l'élévation spirituelle, en un mot, le bien-être. Ce festival offre surtout une scène ouverte aux idées réactionnaires les plus nauséabondes. Par Natacha Marbeau. Déclaration peu banale. Le 13 septembre, sur le site de France Inter, Frédéric Puech, le maire de la commune de Démé, dans les Alpes de Haute-Provence, dit s'être fait avoir. Par qui ? Par les organisateurs d'un festival du bien-être, Les Foisonnantes, qui se tient dans sa commune du 15 au 17 septembre et accueille le gratin de la sphère complotiste francophone. Le festival, lieu de rencontres évolutionnaires, promet des conférences et ateliers pour réfléchir à une plus grande autonomie dans les domaines de la santé, de l'instruction et de l'économie, comme expliqué sur son site. Mais si au programme figurent des réflexions sur la naturopathie, a priori anodine, on y voit aussi des conférences anti-vax ou la projection du dernier film de Christophe Cossé, réalisateur du documentaire complotiste Hold Up. Le glissement entre la sphère du bien-être et celle d'idées réactionnaires, voire racistes, est ancien, mais il s'accentue dans la société contemporaine de manière subtile. Un phénomène étudié par deux anthropologues britanniques, Charles Ward et David Voas, qui l'ont baptisé conspiritualité. Alors, petite parenthèse, oui, le glissement entre la sphère du bien-être et celle d'idées réactionnaires, voire racistes, est ancien, et c'est pour annoncer que, juste après cet article, je lirai un article du CQFD numéro 216, qui fait un peu d'histoire sur, alors là c'est en Allemagne, sur la Lebensreform, la réforme de la vie, végétarisme, nudisme, gymnastique, médecine naturelle, pédagogie alternative et entre guillemets hygiène raciale. On va voir ça tout à l'heure. Alors, le bien-être, je continue l'article de Télérama, le bien-être, quête d'équilibre émotionnel, spirituel ou relationnel. Alors le mot spirituel revient souvent, mais on sait que Télérama est un journal, qui n'est pas rédigé par des athées. A le vent en poupe. Le bien-être a le vent en poupe. Il touche autant au yoga qu'à la gestalt, une méthode thérapeutique holistique épinglée à plusieurs reprises par la Miviludes qui lutte contre les dérives sectaires, en passant par le développement personnel ou les huiles essentielles. L'envie d'être la meilleure version de soi-même n'est pas récente. On la retrouve au fondement du New Age dès la fin du 19e siècle. Et de nombreuses pratiques occidentales actuelles du bien-être viennent de l'Institut S. Allen, créé aux États-Unis par deux hippies en 1962, explique Elisabeth Fettit, documentariste et créatrice du podcast Méta de Choc. À l'origine du New Age, Elisabeth Fettit repère deux mouvements ésotériques, la théosophie et l'anthroposophie. Ces courants mettent en avant une hiérarchie des races racines très claire avec les Aryens en haut. Selon ces idéologies, il est possible, moyennant un bon karma, de se réincarner dans la race supérieure la prochaine fois. Pour cela, il faudrait s'élever spirituellement, manifester des pensées positives ou prendre soin de sa fréquence vibratoire. Toute la spiritualité contemporaine et les pratiques de bien-être viennent de ces théories, bien que les pratiquants l'ignorent. Le retour à l'art, à un âge virginal fantasmé. La recherche de la pureté, de la race, de l'âme et du corps, jusqu'au thé détox, dont l'action supposée n'est pas du tout prouvée scientifiquement, ajoute Elisabeth Fettit, est au cœur du New Age. Une partie de la pensée anti-vax, amatrice des médecines alternatives, prône de ne pas toucher au corps, surtout avec des éléments chimiques. Non loin de l'idée de pureté, la volonté de renouer avec un prétendu âge d'or perdu ressort souvent des discours New Age. Un point commun avec la narration d'extrême droite qui rêve de rétablir un ordre révolu. Revenir à un âge virginal, celui d'avant la perversion de la modernité, une nature divine et exaltée. Au centre de cette nature divine, les femmes, ou plutôt le féminin sacré, voilà un très bon exemple du contenu bien-être qui, sous couvert d'aider les femmes, les aliènes d'autant plus, commente Camille Test, autrice de l'essai Politiser le bien-être, Binge Audio 2023. Très populaire sur les réseaux sociaux, le contenu féminin sacré encourage les femmes à s'enorgueillir de sujets dévalorisés par la société. Les menstruations, la maternité, la féminité, pourquoi pas après tout. Sous couvert de les valoriser, ce type de contenu essentialise les femmes, les réduit à leur rôle reproducteur. Le féminin sacré conseille aux femmes de se libérer des schémas masculins et de vivre une existence qui serait typiquement féminine, douce, tendre, calme. Exit la carrière stressante, les postes à responsabilité et les actions militantes. Place à l'introspection, la méditation, l'écriture d'un journal intime et la gratitude. Une bonne partie du contenu féminin sacré sur TikTok et Instagram consiste en conseils pour éveiller le sacré en soi, pour être la plus attrayante possible pour les hommes. En plus d'être très hétérocentrée, la mouvance incite finalement à revenir sur un demi-siècle de victoire féministe. Une partie du discours est contre l'avortement, intervention médicale qui irait contre l'ordre naturel. Plus folklorique mais non moins effrayante, les granolas nazis expliquent, tout en préparant une tarte ou en jardinant, pourquoi elles sont les garantes de la race blanche qu'il faudrait protéger. Entre Nietzsche et antiféminisme. Où se trouve l'extrême droite politique dans tout cela? Le glissement entre la sphère bien-être et son idéologie est progressif et subtil. Mais la droite identitaire ne se cache pas sur le net. D'une vidéo de méditation, on tombe facilement sur du contenu de développement personnel très teinté idéologiquement. Le meilleur exemple est la militante Thaïs Descuffon, décrit Camille Test. Anciennement proche de l'Action française et de Génération identitaire, elle s'est reconvertie depuis 2022 dans les conseils sur les relations hommes-femmes. Ce n'est pas parce qu'elle donne des conseils qu'elle n'est plus raciste. Fin de citation de Camille Test. Entre développement personnel et saillie politique, Thaïs Descuffon incite ses abonnés à se préserver pour être une femme de haute valeur et encourage les hommes à s'endurcir, cacher leurs émotions, sans hésiter à négliger de temps en temps les femmes qu'ils convoitent. L'agent masculine identitaire n'est d'ailleurs pas absent de ces réseaux. Parmi les plus connus, Julien Rochedy, fervent militant d'extrême droite, proche de Zemmour et de Le Pen. Depuis 2018, il publie du contenu masculiniste et identitaire dans des vidéos sur fond sonore d'opéra classique du genre. Julien Rocher dit, il invoque les notions de volonté de puissance et de surhomme qui marqueraient la différence entre ceux qui ont réussi et les autres. Une construction qui fait appel au philosophe Nietzsche, sous-entendu à la fin il y a des forts et des faibles, et c'est bien normal, souligne Camille Test. Selon ce principe, les personnes migrantes qui se noient dans la Méditerranée n'avaient juste pas assez de volonté de puissance pour mériter une vie belle et digne. Ce discours justifie les inégalités et les exprime au travers de conseils ou d'exposés philosophiques en vidéo, ce qui permet d'éviter une éventuelle censure pour des propos qui tomberaient sous le coup de la loi. Il ne faut pas s'y tromper, les groupes sur les plateformes type Discord de ces vidéastes regorgent de propos racistes. Elles sont moins régulées que les réseaux sociaux. Si je veux, je peux. L'autre trait marquant de cette vision du bien-être est l'individualisme. Ces contenus nous disent « je suis responsable de ce que je vis, si je veux que mes rêves se réalisent, je n'ai qu'à les manifester », résume Elisabeth Fétit. Le New Age insiste à concentrer ses efforts sur sa propre amélioration et pas sur celle de la société, ni des conditions sociales, ni des lois. Conséquence, une très forte dépolitisation. Si chacun n'est responsable que de ses propres améliorations, plus besoin de lutter pour l'égalité sociale. C'est compatible avec l'idée qu'il n'y a pas de raison d'aider les pauvres ou les migrants. Autrefois, à la marge, les idées de pensée positive et de manifestation de ses désirs ne sont plus rares. Elisabeth Fétit constate « La différence avec les années 1970, c'est que le New Age est aujourd'hui devenu complètement mainstream. » Évidemment, tous les très nombreux amateurs de yoga et d'huiles essentielles ne seront pas menacés par la pensée fasciste. Mais l'actuelle porosité entre les milieux revendiqués bien-être et ceux du complotisme, voire de l'extrême droite, ne peut qu'interroger. Dans son dernier rapport de novembre 2022, la Mivilludes alerte sur l'augmentation des discours exploitant l'isolement. En ligne de mire, les gourous 2.0 qui propagent leur doctrine sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était un article de Télérama du 16 septembre 2023. Alors, voilà, si j'avais peut-être une petite remarque à faire. C'est à propos de l'autre trait marquant de cette vision du bien-être est l'individualisme. Voilà, c'est que souvent le mot individualisme dans la presse est mal défini et souvent réduit à cette idéologie du self-made man ou woman. Sur le modèle états-unien et opposant un collectivisme bien souvent national. C'est très réducteur de cette définition de l'individualisme c'est très réducteur de la définition d'une définition plus large qu'on peut donner de l'individualisme. Voilà. Donc on passe tout de suite à cet article de CQFD, du CQFD numéro 216 de janvier 2023, qui publie un dossier sur le développement personnel. Développement personnel, régression collective, l'article de Laurent Pérez, Réformer la vie au lieu de changer le monde. Dans l'Allemagne du début du XXe siècle, la Lebensreform, la réforme de la vie, mêle végétarisme, nudisme, gymnastique, médecine naturelle, pédagogie alternative et hygiène raciale. Autant de réponses individuelles aux défis posés par l'industrialisation et l'urbanisation. voyage en Allemagne au début du XXe siècle, il se demande si tout le pays n'est pas devenu cinglé. Des gens de tous âges zonent à Walpé au bord des lacs. Des associations tracent dans les montagnes des sentiers de rando, construisent des chalets et manifestent contre la construction de barrages. On fait l'école à la campagne. Les ados partent, rucksack au dos, admirer les paysages et fortifier leur jeune organisme. Sur son bateau, l'empereur Guillaume II oblige sa cour à faire tous les matins des exercices de gym rythmique. Des couples du meilleur monde entrent en lutte contre le modèle du couple hétérosexuel monogame. Afin de régénérer la race allemande, on projette des sortes de haras humains où des mâles et des femelles sélectionnés seraient invités à se reproduire. Au lieu de se piquer la ruche sur leur temps de congé, les ouvriers triment volontairement sur de petits lopins qui s'étendent à perte de vue autour des villes. Pour être en bonne santé et par souci des bêtes, le végétarisme devient à la mode. Si on tombe malade, plutôt que de prendre des médicaments, on se soigne avec des herbes, des tisanes, des huiles essentielles. Dans l'Europe de la belle époque, tout ça paraît bizarre, Bienvenue au pays de la Lebensreform, la réforme de la vie. Sans théorie ni leader, la Lebensreform mêle un peu tout ça. Soucis du corps, végétarisme, médecine naturelle, pédagogie alternative, sexologie, intérêt pour le paysage, mais aussi ésotérisme et eugénisme, c'est-à-dire amélioration de la race par la sélection génétique. Annonçant l'idéologie du développement personnel, les réformateurs prétendent soigner la société par une accumulation de choix de consommation individuelle et font reposer sur l'individu la responsabilité de sa bonne santé. En fonction de leur milieu, de leur goût personnel ou de leurs convictions politiques ou religieuses, des millions d'Allemands piochent là-dedans des pratiques et des idéaux qui expriment toute une aspiration au progrès individuel, à la pureté, à la nature. En toile de fond, un immense mouvement de la jeunesse, Jugendbewegung, de type scout, qui monte en puissance tout au long du XIXe siècle. En 1900, 20% des jeunes Allemands participe à une organisation de jeunesse persuadée de représenter l'avenir et la régénération de la société. Entre ces tendances apparemment hétéroclites, les liens s'établissent naturellement. Un penseur emblématique de la Lebensreform, l'ésotériste autrichien Rudolf Steiner, est ainsi à la fois à l'origine de la pédagogie Steiner-Waldorf, de l'agriculture biodynamique et des produits pharmaceutiques et diététiques commercialisés sous la marque Velleda, avec un W. Aucun domaine de la vie n'échappe à la réforme. Son bien fondé est aussi peu interrogé que le sera la société de consommation dans les années 1950-1960. La Lebensreform, c'est l'ère du temps. Car dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, l'air empeste. En l'espace d'une génération entre 1850 et 1880, la société allemande est passée du monde des contes de Grimm à celui de Zola. L'horizon limité des minuscules grands-duchés et autres seigneuries du Saint-Empire, avec leur capitale d'opérette encore semi-rurale, a cédé la place à un État militariste, première puissance industrielle d'Europe, et à des méthodes tentaculaires où des millions de prolétaires déracinés s'entassent dans des taudis insalubres. Ce bouleversement, unique en Europe par sa violence et sa rapidité, favorise l'émergence d'un puissant mouvement ouvrier qui aboutira à la révolution spartakiste de 1918. Mais c'est aussi cette modernisation à marche forcée qui suscite, notamment parmi les classes moyennes, un repli sur la sphère intime, l'aspiration à un mode de vie plus sain et le fantasme d'un retour à une nature jugée plus authentique. Bruit de bottes en caoutchouc. La Lebensreform n'est pas entièrement de droite, entre guillemets. Même les marxismes les plus austères sont sensibles à certains de ces thèmes, comme le sport ou la condition animale. Mais hier comme aujourd'hui, la haine de la modernité décadente et les fantasmes de pureté et d'authenticité annoncent autant le bruit des bottes en caoutchouc que celui des rangers de combat. Le maelstrom idéologique de la Lebensreform est ainsi souvent poreux à l'idéologie folkish, populaire et ou ethnique, qui, à la même époque, tend à réaffirmer les droits de la race germanique authentique sur sa terre. Interdit de travailler la terre depuis le Moyen-Âge, surreprésenté dans le monde urbain et les professions intellectuelles, les Juifs en sont les cibles désignées. Dans l'opinion publique allemande au début du XXe siècle, l'antisémitisme est un thème de débat aussi acceptable que l'hygiène ou la santé préventive. La propagande nazie n'aura pas à chercher loin pour dépeindre les Juifs comme des animaux nuisibles à éradiquer. Le régime nazi favorisera le naturisme et le sport, développera un culte de la jeunesse, soutiendra les droits des animaux et développera une politique écologique extrêmement ambitieuse pour l'époque. Hitler est aussi un enfant de la Lebensreform. Voilà, c'était un article de Laurent Pérez. Réformer la vie, entre guillemets, au lieu de changer le monde. C'est dans le dossier aux origines du développement personnel, sur le développement personnel, qui a consacré ce journal, dans ce numéro de janvier 2023. Et maintenant, on va passer donc à la deuxième partie de cette émission qui parle de toute autre chose et qui parle de l'histoire des mouvements de psychiatrisés dans les années 70, expliqué par André Bitton. On est toujours sur Radio Libertaire, c'est l'émission L'Entonnoir, et émission critique de la psychiatrie.
Bon, donc je démarre une vidéo. Alors, je dois intervenir demain, 24 juin, sur l'histoire des mouvements de psychiatrisés en France. Il y a une vraie difficulté hein, pour cette dite histoire, c'est que, autant que j'ai pu voir, nous ne sommes pas reconnus comme ayant capacité à voir par nous-mêmes une histoire et à dire et à rédiger cette histoire. Ainsi, en 2015, il m'a été répliqué par un sociologue, un chercheur sociologue universitaire, que j'ai dû démentir. D'ailleurs, que comme je n'étais pas historien, je n'avais pas de métier, ni même de formation, je n'avais pas capacité. Ah oui, enfin, moi je fais quand même partie des personnes qui s'instruisent, je suis abonné régulièrement à une revue d'histoire, c'est une discipline que j'aime bien. Il n'est pas interdit dans la France contemporaine et sous nos latitudes, où que ce soit, d'ailleurs maintenant avec toutes les facilités de l'Internet, de se documenter et de se cultiver. Donc cette objection me paraît nulle et non avenue. Des groupes militants, des groupes associatifs ont parfaitement le droit et la capacité d'avoir leur histoire et d'avoir un point de vue général, politique et même de représentation d'intérêts, y compris lorsque les travaux d'impact nationaux sont en cours, sur ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en œuvre. Alors il y a une autre difficulté qui est qu'il y a une différence entre les mouvements de personnes patientes de la psychiatrie qui ont été encouragés, valorisés, reconnus par les autorités sanitaires et le gouvernement, et les mouvements contestataires. Et cette différence, c'est un véritable conflit d'ailleurs, fait que les thésards, les historiens, les officiels qui ont plus ou moins travaillé sur ce terrain, à un titre ou à un autre, et ce, y compris des personnes psychiatrisées telles Stéphane Jaffrin, récemment décédé dans son bouquin récemment publié sur la tribu des Gemmes, mettent de côté l'antériorité des mouvements de psychiatrisés en contestation ou non institutionnalisés par rapport aux mouvements institutionnalisés. Alors tout d'abord, au niveau institutionnel, c'est par les ordonnances Juppé de 1996 de réforme de la sécurité sociale et de l'hôpital psychiatrique public et privé que s'amorce en France la reconnaissance officielle institutionnelle de la représentation des usagers patients et aidants dans les instances sanitaires hospitalières. et en l'espèce dans les établissements psychiatriques. Et c'est à partir de cette date, au printemps 96, qu'est déroulé, comme l'avait dit le docteur Jean-Michel Kahn, ancien président de la FNEPSI, de 95, 96 à 98, qui a passé la main à Claude Finkelstein en 98, comme l'avait dit lors d'une interview Jean-Michel Kahn, les autorités sanitaires ont déroulé un tapis rouge à ce petit groupe d'associations qui était vraiment très très sous-développé comparativement aux autres pays, en disant vous allez représenter les patients de la psychiatrie dans les instances. Dans l'espèce, ça s'était fait avec l'accord et même la participation depuis déjà 2 ans, je pense, dès 1994, hein, je pense, d'un directeur d'hôpital, celui de Maison Blanche, M. Mordelais, et de M. Joël Martinez, directeur de l'hôpital Esquirol. Et par ailleurs, il y avait l'accord volontaire de patrons de la psychiatrie, et parmi ces patrons de la psychiatrie, un qui a joué un rôle très important, le professeur Édouard Zarifian, décédé en 2007, qui était le médecin-chef d'un service de psychiatrie à Caen, à l'hôpital au CHU. Donc, l'on confond cela, et l'officialisation de ces mouvements, avec un acte de naissance des mouvements de personnes psychiatrisées en France. Non, ce n'est pas le cas. Alors, des coalitions éphémères de personnes connaissant ou ayant connu l'internement psychiatrique, il y en a eu dès le 19e siècle, mais ça n'a pas pris souche. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le premier mouvement de personnes organisées en contestation, d'ailleurs en revendication et en revendication juridique, hein, juridique et politique, des personnes connaissant la psychiatrie et plus précisément l'internement psychiatrique, qui était non pas un mouvement de patients. Hein, le groupe Information Asile s'est jamais vraiment reconnu, sauf sous ma présidence, comme étant un mouvement d'usagers, patients, ex-patients, patients contraints, patients involontaires, mais bien un mouvement d'internés. Ex-interné, interné. Quand j'ai intégré Coop Information Asile en 90, le mot qui définissait les gens protagonistes de ce mouvement, c'était « on a connu l'internement ». On est des internés, anciens internés, et on se bagarre pour nos droits. Et les moins atteints, les non-atteints, tuteurs et guides, par leurs actions et par leur leadership, les plus atteints du groupe, qui étaient à condition de ne pas enterrer les plus faibles ou celles et ceux qui pouvaient s'en sortir, c'était aussi bien ainsi. Et ça, il y avait là quand même une certaine dynamique autour de Philippe Bernardet, qui était celui qui développait les écritures contentieuses et les écritures politiques. Alors d'ailleurs, il faut voir qui était Philippe Bernardet, puisque il en dépend beaucoup des personnes. Donc, en fait, on doit se plonger dans la dynamique des événements de mai 68 pour savoir ce qu'il en est. En fait, il y a une fameuse circulaire. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement anti-aliéniste prend corps et cela va déboucher sur le développement des techniques de psychanalyse, psychothérapie institutionnelle, soigner l'hôpital pour que l'hôpital soit soignant, puisque c'était la question de la chronicité du monde asilaire, qui est un monde terrifiant. Moi, j'ai connu les dernières années de l'hôpital psychiatrique village, c'est un monde de chronicité épouvantable, c'est vraiment tout, quoi. Moi, j'ai connu des gens qui ont pratiquement sont nés là-dedans, ont été placés enfants, ils ont mené toute leur vie, hein, quand même. Bien. Donc, c'est ce qui se dessine, c'est l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, le développement du secteur, le développement des prises en charge hors la ville, mais c'est en France sous un état d'esprit très paternaliste. C'est messieurs, dames les soignants, c'est messieurs, dames les professionnels, avec leur hiérarchie, leur patron, leurs leaders qui ont leurs entrées au ministère de la Santé et qui siègent ou envoient leurs délégués à la commission des maladies mentales qui, auprès du ministre de la Santé, qui va aiguiller la politique psychiatrique nationale jusqu'à la fin des années 80. Donc on est sous un étouffoir paternaliste, ces messieurs, dames, les professionnels. Et la période de l'après-mai 68 est une période également qui, en France, met à la mode l'antipsychiatrie, la parole du fou, la valorisation de la folie. Et, mais à travers cela, les traits timides de percer pour que des internés, des personnes connaissant les horreurs institutionnelles puissent s'exprimer, puissent protester, puissent faire valoir ce qu'elles ont à dire. Alors là, c'est très tenu et très, comment dire, conditionné par est-ce que ces messieurs-dames, les professionnels, veulent bien laisser la parole un petit peu de créneau par-ci, par-là. Et c'est dans ces conditions que le groupe Information Asile, qui veut affirmer la question des droits des personnes psychiatrisées, à travers notamment une charte fondatrice du 4 décembre 1972, rédigée par 4 internés de Perret-Vaucluse dans le service BAR du 17e arrondissement, où il y a un interne en psychiatrie qui officie, qui est le fondateur et le développeur du groupe Information Asile, Dimitri Couchès, qui va quitter ce mouvement en 1976. C'est sur la base de cela, de ce conflit entre ces messieurs-là, les professionnels, et celles et ceux des professionnels qui disent qu'il y en a marre. Les internés doivent pouvoir s'organiser, faire valoir leur point de vue. C'est un monde d'étouffement. Il y en a assez, la parole aux internés, la parole aux psychiatrisés. Mais évidemment, ce sont des professionnels gauchistes, contestataires, qui ouvrent ce champ. Et c'est donc la base de cette charte du 4 décembre 1912, la charte de l'ARM, avec une trentaine de points écrits par 4 internés avant la hache, totalisant 24 internements à E4, la plupart du temps dans l'infirmerie psychiatrique, que va commencer à se développer un corpus de revendications sur les droits des personnes psychiatrisées, les droits des internés, le droit d'accès aux dossiers, le droit contradictoire, le droit de contester les traitements, ces revendications qui sont toujours en place. Voilà. Ces revendications, vous les trouvez sur le site du groupe Information Asile, notamment avec un lien l'hommage pour le Roger Gentil, ce psychiatre qui avait écrit cet opuscule très flambant contestataire antipsychiatrique, Les murs de l'asile. Bon, c'était un très bon opuscule, mais qu'il faut bien lire comme venant d'un professionnel qui est un chef d'école dans une époque où l'antipsychiatrie est à la mode et où ces gens-là se créent un nouveau terrain et prennent un pouvoir, et même le pouvoir dans certains établissements, sur la vie active en psychiatrie. Alors, à cette époque-là, ce qu'il faut voir, c'est que les personnes psychiatrisées en établissement ou qui en sortent, et je ne parle pas des personnes en suivi psychiatrique privé, en état de simple malaise, je parle des gens qui ont connu l'internement psychiatrique, sont considérés comme des non-êtres. Nous ne sommes pas considérés, puisque je suis un ancien interné, comme des êtres humains à part entière. Cette revendication de l'appartenance à part entière, d'avoir des droits à part entière, est toujours en place. Et cette revendication et cette lutte pour faire valoir cela, elle a tout l'avenir devant elle. Il faut absolument la maintenir, cette revendication. Nous sommes, et nous entendons être, des êtres humains à part entière. Donc, à l'époque, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est à la fin des médecins directeurs, des hôpitaux psychiatriques, c'est les séquelles des asiles d'aliénés, et que les médecins directeurs sont des ex-aliénistes, des psychiatres chefs, médecins chefs, qui, élus par les leurs, et avec l'accord des préfectures, puisque les hôpitaux psychiatriques sont sous la tutelle des préfectures, et n'acquièrent la personnalité juridique que tardivement, je crois que c'est en 70. Quelque chose comme ça, avec la loi hospitalière 70. Bien, donc ces médecins directeurs qui ont un pouvoir féodal avec les professionnels, avec les soignants et paramédicaux, un pouvoir féodal sur le cheptel des malades, ont en quelque sorte un droit de propriété sur la file active des patients. Et c'est espèce de droit de propriété qui va permettre, qui va traîner avec, on a toujours les séquelles, qui va faire que jusque très tard, il va être considéré que naturellement, les malades mentaux ne peuvent pas avoir par eux-mêmes voix au chapitre. Et que donc, naturellement, nous ne pouvons pas avoir une histoire par nous-mêmes, et il faut en passer par votre psychiatre, le tuteur, le curateur, parce que vous êtes juste un fou, un dément, un non-être, et etc., etc. Donc c'est cette problématique conflictuelle qui va être en place dès les années 70 et qui va se renforcer au fur et à mesure et qui permet d'expliquer la conflictualité vive entre la mouvance Groupe Information Asile, dont le CRPA provient, et la mouvance FNAPSI, qui va être parfaitement officialisée et valorisée par le ministère de la Santé à partir des années 2000. C'est voir le premier colloque institutionnel de la FNAPSI au ministère de la Santé le 25 février 2000. Il y a là une problématique conflictuelle qui est là en place depuis le début. En fait, ainsi, dans les années 70, alors qu'il y avait eu, suite à l'essor de la psychothérapie institutionnelle, le développement des clubs thérapeutiques de la psychothérapie institutionnelle qui organisaient des personnes psychiatrisées, ces clubs thérapeutiques organisaient les personnes psychiatrisées sous une optique paternaliste, telle que ces clubs ne pouvaient pas être dirigés par des personnes patientes. Les patients n'avaient pas, certes, bon, voilà, voir de l'abortisme, la clinique Chaille, etc., etc. Donc le regard essentiellement paternaliste, féodal, en fait, porté sur les personnes psychiatrisées, est un regard qui, structurellement, avec la verticalité de la structure des pouvoirs en France et des corporations, des corps intermédiaires, des syndicats, des partis, etc., a incapacité l'étatisme français, a incapacité le développement jusqu'à tard des mouvements psychiatrisés en France. Et si ces mouvements ont pu se développer, c'est sous la tutelle étatique, c'est sous la tutelle des ARS, avec les contingences que l'on connaît, les pressions sur les subventions, la neutralisation de la porte-parole nationale par le biais de la DGS, des subventions, etc., le Finkelstein, avec les problématiques conflictuelles que l'on connaît. Et même, on voit bien à travers le développement de la paire aidance professionnalisée que les paires aidants, tôt ou tard, sont là sous relation de subordination et sont des exécutants, et la marge de manœuvre qui est laissée est... va être vraisemblablement relativement étendu jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Et ça, on est justement là pour en discuter. Donc alors, toujours est-il qu'il apparaît dans cette affaire que le premier groupe, le premier mouvement, la première organisation en France qui systématiquement va vouloir et va chercher à organiser les personnes psychiatrisées, les personnes patientes, les personnes dites malades mentales, c'est le groupe Information Asile qui va poser ses jalons en 72, en donnant écho notamment à la charte de l'ARN du 4 décembre 72. Le GIA est dirigé et formé par des internes en psychiatrie en dissidence qui sont des gauchistes, issus des mouvances gauchistes et plus précisément autour de l'éclatement de la gauche prolétarienne, la mouvance anarcho-maoïste, a beaucoup fait parler d'elle, suite à son éclatement progressif après l'assassinat de cet ouvrier, ex-ouvrier de la régie Renault, Pierre Auvernet, un ouvrier du rang de la classe ouvrière française, malheureusement chauffé à blanc par cette propagande des normaliens de l'école normale sup, et qui malheureusement a été tiré à balle aux portes de la régie Renault le 25 février 1972, amenant dans l'année qui suivait, dans les deux ans qui suivent, un processus de décomposition. Alors, à ces années gauchistes, avec les différents groupes gauchistes activistes, notamment cette espèce de rivalité activiste entre les mouvements maoïstes et les mouvements trotskistes, les communistes révolutionnaires crivinistes, a amené toute une vague d'incarcération au début des années 70 avec une loi anti-casseur, des dissolutions. Et pour réagir à ces incarcérations, a été monté en 1971 le premier groupe d'information, le groupe d'information sur les prisons, avec des intellectuels voulant poser la problématique de l'incarcération en France. Et ce groupe d'information va s'autodissoudre en 1972, préfigurant la dissolution de la gauche prolétarienne, de là qui était bienvenue, fin 73, et va donner naissance au comité d'action des prisonniers qui va essentiellement être formé de personnes ayant connu l'incarcération. Le GIA va se développer en parallèle sur le modèle d'abord du groupe d'information prison, mais surtout du comité d'action des prisonniers, en entendant organiser essentiellement des personnes connaissant l'internement psychiatrique. Alors, si l'accent a été mis ces années-là, on a toujours les conséquences d'ailleurs à travers l'Observatoire international des prisons et également le contrôle général des privations de liberté sur les prisons. De toute façon, le monde des avocats, des juristes et des contestataires va essentiellement porter l'attention sur les détenus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'époque, au début des années 70, alors que se développe la vague antipsychiatrique, qui est formée essentiellement professionnelle, qui cherche à avoir un marché et à faire entendre leur contestation, mais cette contestation, ils vont se centriser sous la Mitterrandie à partir de 1980-81. François Mitterrand accède à la présidence de la République. Pour son premier septennat, il va y avoir une distribution de postes. Ils vont avoir des chefs de pôle, ils vont être dans la carrière. Et à partir de là, de toutes les façons, le mépris compassionnel et tutélisant et dépressionnel sur les personnes psychiatrisées, alors là, il est là depuis le début. Moi, je l'ai connu dans les années 70, où je n'étais pas spécialement psychiatrisé, j'étais marginalisé pour 68, pas du tout. Et c'est un mépris compassionnel absolument parfois terrifiant, vraiment terrifiant, je veux dire, pour des jeunes en dérive. il faut avoir faire quelques prises de conscience utiles pour s'en rendre compte. Et bon, donc, en fait, c'est d'ailleurs sur la base de ce paternalisme que l'on va comprendre que dans notre contestation juridique, nous allons avoir comme adversaire, outre les pouvoirs publics, le gouvernement, la FNAPCI, bien sûr, nous allons avoir ces messieurs-dames issus de l'antipsychiatrie qui ont eu depuis du pouvoir, voire le pouvoir sur l'institution psychiatrique. Donc, en fait, on voit que tout cela, c'est passablement compliqué et que, en France, la percée, le fait que des personnes psychiatrisées prennent la parole en autonomie, s'organisent en autonomie, il va falloir, pour que ce soit, pour que ça apparaisse, il va falloir que le gouvernement, les pouvoirs publics, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, s'en mêlent, officialisent qu'ils sont pour, etc. Et l'on sait que si les GEM ont été développés, c'est aussi dans une optique de désinstitutionnalisation, pour, en quelque sorte comme un bras armé, une espèce de moyen pour le pouvoir gouvernemental de mettre à bas les citadelles corporatistes, syndicales, du milieu hospitalier, psychiatrique. Et après ça, il en est ainsi. Donc on doit au réalisme de considérer que il y a depuis le début une problématique conflictuelle entre des organisations, d'abord les clubs de patients, d'abord dirigées par et pour des professionnels et incluant des patients psychiatrisés, généralement médiqués, du ressort de la psychothérapie institutionnelle, et les quelques groupes et organisations qui vont pouvoir se former de personnes connaissant la psychiatrie ou ayant connu la psychiatrie et qui veulent s'affirmer en autonomie avec un point de vue autonome. Bien. Donc, quand, en tout cas, une chose est claire, c'est qu'en 1990, personnellement, quand j'intègre le groupe Information Asile, le mouvement de personnes psychiatrisées, de personnes connaissant ou ayant connu la psychiatrie en France le plus puissant, c'est le groupe Information Asile, qui est essentiellement procédural, essentiellement dans les bagarres juridiques et politiques, et qui n'accède que pas ou seulement à travers ce biais à la problématique des droits des patients et à la problématique de l'entraide entre personnes connaissant la psychiatrie. Quoique, à l'intérieur de groupes de contestation, hein, dans l'accès au dossier, des camaraderies se nouent, et ces camaraderies permettent à des gens d'être plus solides, de s'en tirer, et d'éviter les réinternements, d'éviter la chronicité. Hein. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé, hein, pour de bon. Mais encore faut-il être suffisamment solide et suffisamment autonome pour pouvoir s'en servir. Donc, et quand... D'une part, ça c'est 1990, et lorsque la FNAPCI est créée en 1992, c'est juste 3-4 associations, à ce moment-là, la différence est claire entre un groupe assez costaud, hein, autour de Philippe Bernardet, sociologue, qui manie essentiellement le droit, qui est revendiquant, qui est procédural et qui va être combattu, on va être combattu de façon sordide, de façon quasi criminelle. Hein. Je dois dire que moi, personnellement, j'ai eu un conflit très très clair et très dur avec Claude Finkelstein en tant que représentante et que défendeur des thèses du gouvernement, du sarkozisme, enfin bon, quand même. Donc il y a une conflictualité très nette entre des groupes qui sont revendicants, qui revendiquent du droit et qui, à un titre ou à un autre, se veulent en rupture avec l'institution psychiatrique ou tout le moins en marge, et les groupes qui vont être valorisés, autonomisés et financés, hein, par les pouvoirs publics et les institutions qui se veulent à l'intérieur du terrain psychiatrique en collaboration au titre de l'entraide, mais en collaboration avec les institutions. Et c'est là que la problématique FNAPCI se loue. Alors, cette problématique est très importante puisque on sait que au début de la FNAPCI, jusque 2000 à peu près, des personnes qui avaient une autonomie, qui avaient une certaine personnalité, qui avaient du bagage, qui avaient quelque chose à dire, étaient là, et que ces personnes étaient petit à petit éjectées, mises de côté de la FNAPCI, jusqu'à ce qu'on constate, à partir de 2002, que Claude Finkelstein, qui a eu la présidence de la FNAPCI en juin 1998, avait verrouillé et tout fait le tout au service de ses intérêts, et au service de ces alliances nouées dès 2000, avec, entre elles, représentantes de la FNAPCI, mais représentantes étouffant d'autres voix, étouffant les possibles, l'UNAFAM d'un côté, le secrétaire d'État du gouvernement, le ministère de la Santé et par ailleurs la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement, représentée en 2000 par Alain Pidol, qui était au psychiatre médecin-chef, qui a été incarcéré en 2013 et condamné en 2018 par la cour d'assises du Bas-Rhin à 13 ans de prison ferme pour violences sexuelles, viol, sur certaines de ses patientes, notamment une mineure. Bon, enfin bon, c'est ainsi, c'est à chaque fois qu'il y a du pouvoir et trop de pouvoir, des excès de pouvoir sont là, d'une part, et d'autre part, lorsque l'on donne sans contrôle un pouvoir féodal, pour nous qui venons du tiers-monde, on sait ce que c'est le féodalisme, tout de même, puisque à la base, moi, d'autres, on provient de tribus. Hein, on ne provient pas de famille nucléaire au sens occidental du terme, mais bien de tribus. Que lorsque l'on laisse des personnes comme cela un pouvoir tribal, un pouvoir féodal, alors on ne s'étonne pas qu'il se passe n'importe quoi. Maintenant, ça apparaît. Hein, depuis la judiciarisation, depuis la crise de la psychiatrie, ça apparaît assez clairement. Donc, en tout cas, la question du développement des mouvements de personnes psychiatrisées se pose, à mon sens, ainsi. Cette conflictualité entre des groupes minoritaires combattus, mais qui ont pu percer notamment à travers l'action juridique et politique, vaille que vaille, au niveau de la contestation de ce qui se passe, parce que c'est horrible ce qui se passe dans les institutions, et les clubs de patients, les groupes de personnes valorisées et institutionnalisées, en collaboration avec les institutions, en collaboration avec le gouvernement, généralement tenu par des subventions d'ailleurs, dans le sens d'une entraide pure et simple, mais aussi tenue que possible. Alors là-dessus, moi je ne dis pas les groupes d'entraide mutuelle, à partir du moment où il y avait la désinstitutionnalisation, le démantèlement hôpitaux de jour, CTTP, des CMP, le développement de l'entraide entre pairs était absolument impératif. Mais ce qu'on a pu voir, c'est également, parce que bon, c'est que si les groupes d'entraide mutuelle ont été développés, bon nombre d'entre eux ont été développés dans le sens de l'étouffement, voire de la répression, des contestations et des protestations des personnes malades comme de leurs familles. Or, il est clair de nos jours, notamment avec la crise de la psychiatrie, notamment avec les rapports successifs du contrôle général des privations de liberté, ce que nous avons pu mettre à jour, le développement du contentieux, même si ce développement est abrasé, pour le film 12 jours, bien, il est clair que les horaires institutionnels sont là, ont toujours été là d'ailleurs, et se sont renforcés. Et que donc la question se pose de au moins d'abord consacrer cette conflictualité, consacrer que nous devons nous battre pour nos droits, pour nos existences, pour notre dignité, et consacrer quand même contre la tenue du monde éditorial, du monde officiel et professionnel par ces messieurs-dames. Oui, les fous, nous on connaît, on s'en occupe, il n'y a pas tel professionnel pour les tutorer, que nous avons bel et bien une histoire, et c'est à nous, d'abord nous avons écrit notre histoire, c'est à nous de le faire reconnaître et de donner à celles et ceux qui nous suivent et à celles et ceux qui ne la connaissent pas des éléments de cette histoire. Je m'en arrêterai là pour cette fois.
André Bitton, donc une histoire de mouvement de psychiatrisés dans les années 70 et aujourd'hui, eh bien, qu'en est-il ? Eh bien, continuons l'autosupport et l'entraide, même si elle est hors institution. Et les témoignages et les écrits et les productions par les personnes concernées soit produite, c'est bien aussi. Et par exemple, nous allons inviter la semaine prochaine une personne qui témoigne, 13, qui a écrit Charge. Nous l'invitons donc à Radio Libertaire, 13, qui est aussi slameuse. Pour finir cette émission, une chanson, une veilleuse, Apicratie, en référence à la première partie de cette émission. Nous vous disons à la semaine prochaine.
Jardin d'Éden, la vie est un grand jeu. Pas de place pour la haine, ni les débats houleux. Tout ce qu'on y entend sont les messages d'espoir. C'est l'éternel printemps, la fête obligatoire. Le bonheur devenu emblème, dégouline encore et encore. Des bouches gonflées comme les œdèmes d'un paradis technicolore. Du flic au fossoyeur, tout le monde le dit. On vit dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Libéré de la peur, non violent comme Gandhi. Triomphe du bonheur au pays. Au pays de Candy. Cette jungle, les tigres ont des pattes de velours. Jamais ils ne dénigrent personne dans leur discours. Jamais plus ils ne veulent surveiller et punir. On s'en charge tout seul et avec le sourire. Quand le bonheur retourne sa veste, nous laissant lambeaux lessivés. Quand pleurer tout ce qu'il nous reste, on se force à positiver. Le mal de cœur, surtout reste bien assis. Demande à ton dealer une dose d'ataraxie. N'écoute pas la douleur, redresse-toi et souris. Enfile tes écouteurs radio. Happy Crassy. Chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'il passe au péage, c'est la règle du jeu. Chacun poursuit la quête du plaisir solitaire. Et docilement répète le mantra des experts. Le bonheur est une niche fiscale, ouverte aux riches, aux bien portants. Pour pouvoir décrocher le Graal, faut faire partie des dominants. Achète le bonheur, peu importe son prix. Sois fier d'être un winner, relève les défis. Ne laisse pas ton aigreur troubler leur euphorie. Sinon, à coup de taser, ils t'indiqueront la sortie du flic au fossoyeur. Tout le monde le dit. Dans le meilleur des mondes aujourd'hui, libéré de la peur, non violent comme Gandhi, triomphe du bonheur au pays. Au pays. Au pays. Au pays. Thank you.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous êtes dans l'émission Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire. Vous pouvez écouter Radio Libertaire par internet sur www.radio-libertaire.org. Vous pouvez retrouver aussi les archives d'Un rayon de soleil sur http://rl.mediterranee.free.fr et nous envoyer un message si vous le souhaitez sur rl.mediterranee@free.fr. Voilà, aujourd'hui au programme de l'actualité dans la seconde partie de l'émission. Voilà, l'actualité a encore fait qu'on a été obligé de changer le programme. La première partie de l'émission sera consacrée à un hommage à Richard Martin qui vient de nous quitter. Richard Martin, qui était un libertaire connu de Marseille, directeur du théâtre Tourski et fondateur de ce théâtre, fondateur de la troupe qui porte son nom de théâtre. C'était un libertaire absolument sympathique, un humanisme formidable. Et il est parti le 16 octobre 2023 et il laisse un grand trou pour tous ceux qui aimaient l'humanisme et la pensée libertaire, parce qu'il était un véritable lien dans ces quartiers difficiles entre la population et il faisait énormément de choses. Voilà. Deuxième partie de l'émission, je disais l'actualité et plus précisément l'émigration, les différentes migrations des différents réfugiés qui viennent à nos frontières après un voyage dangereux et périlleux où il y a beaucoup de morts et l'Europe, telle une citadelle, ne veut pas recevoir ces hommes et ces femmes et ces enfants. Alexandra Galdon présentait en 2009 « Mon Marseille à moi » Richard Martin et c'est une très belle interview de Richard Martin qu'elle a réalisée. On s'écoute ça tout de suite.
Bonjour à tous et bienvenue dans « Mon Marseille à moi ». À la tête du Tourski depuis bientôt 40 ans, Richard Martin a su, contre vents et marées, tenir le cap et faire de son théâtre un des hauts lieux de culture et d'échange à Marseille. De Sainte-Marthe à la Valentine, en passant par le Petit Nice, Richard Martin va revenir sur son histoire, son parcours et son amitié avec Léo Ferré. Et c'est justement ici, promenade Léo Ferré, que la balade commence. Direction le Théâtre Tourski. C'est parti!
Alexandra.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, merci en tout cas de nous accueillir chez vous, ici, au Tourski.